Bonjour à toutes et à tous. L'argent plus que jamais, nerf de la grève à la SNCF alors que la mobilisation des cheminots entre dans son troisième mois. L'intensité de la grève baisse encore, conséquence de la durée du mouvement qui fait sentir ses effets sur les finances des grévistes. Alors pour tenir encore, ils comptent sur l'argent collecté en ligne dans une cagnotte de soutien. La redistribution de cette caisse de grève devrait démarrer dans les jours qui viennent, Raphaël Ebenstein.
1,2 million d'euros collectés, près de 30 000 donateurs. Le succès inattendu de la cagnotte en ligne, lancée par des intellectuels et des artistes, a nécessité la création d'une association spécifiquement chargée de gérer et de distribuer les fonds, où siègent évidemment des représentants des quatre principaux syndicats de la SNCF. Ils devraient valider mardi les premiers virements bancaires aux cheminots, ayant déjà rempli des dossiers de demande. Seule condition pour être éligible, avoir fait au moins 4 jours de grève depuis le début du mouvement le 3 avril. L'indemnisation prévue est de 20 euros par jour, loin donc de compenser les pertes de salaire. Reste une inconnue majeure, le nombre de dossiers qui seront finalement déposés. Les syndicats espèrent qu'il y en aura moins de 5 000 au total. Mais rien que du côté de Sudrail, par exemple, on s'apprête à transmettre plusieurs centaines de demandes lors de la réunion de l'association prévue mardi.
Raphaël Ebenstein, la SNCF prévoit pour ce samedi la circulation de 4 TGV sur 5 et 2 intercités sur 5 également. Le nom change, mais le fond reste au Front National. Les cadres du parti d'extrême droite ont entériné hier soir à Lyon la nouvelle appellation Rassemblement National, approuvée par les militants et censée parachever la dédiabolisation portée par Marine Le Pen. Le logo du parti reste marqué de la flamme identitaire bleu-blanc-rouge. Faut-il y voir un recul dans la politique française en matière d'accessibilité des logements aux personnes âgées et personnes handicapées? Les députés, en tout cas, ont adopté hier soir le volet du projet de loi Élan qui prévoit de ramener à 10% la part de logements neufs qui devront être construits selon les normes d'accessibilité. Jusque-là, c'était 100%, une obligation légale dénoncée par les architectes et promoteurs qui y voyaient un frein à la construction en France. Elle s'appelle Mélina Bouguedir, française, jugée demain par la justice irakienne, où elle est suspectée d'avoir appartenu au groupe État islamique. La jeune femme avait rejoint son mari en 2015, entrée illégale sur le territoire irakien, pour laquelle elle a déjà été condamnée il y a quelques mois. Mais là, son nouveau procès porte bien sur des accusations de terrorisme. La Française risque la peine de mort. Elle est défendue par un avocat irakien commis d'office qu'a pu rencontrer notre envoyé spécial à Bagdad, Sophie Parmentier.
Abed Nasserdin Medloud est un jeune avocat élégant, costume bleu, petites lunettes, regard aux aguets, un peu inquiet. Depuis qu'il défend Mélina Bouguedir, il se sent perpétuellement en danger car les Irakiens ne comprennent pas comment un Bagdadi peut plaider pour une Française qui avait rejoint Daesh avec son mari. À la veille du procès, l'avocat irakien n'a toujours pas eu le droit de rendre visite à sa cliente dans la prison où elle est détenue avec son bébé.
Un capitaine de l'antiterrorisme m'a menacé quand j'ai voulu rencontrer ma cliente. Il m'a empêché de la voir. Et ça s'est passé devant des journalistes. Il m'a dit devant tout le monde, comment peux-tu la défendre alors que son mari est un des fous de Daesh?
Abed Nasserdin Medloud est lui persuadé que Mélina Bouguedir est innocente, qu'il n'y a aucune preuve contre elle et qu'elle aurait dû rentrer en France en février dernier après un premier procès sans aucune charge pour terrorisme. Cette fois, elle risque la peine de mort et Abed Nasserdin Medloud compte sur les 3 avocats français de Mélina Bouguedir pour l'épauler dimanche devant la Cour pénale centrale.
Sophie Parmentier. Le cap est à nouveau fixé sur Singapour le 12 juin. Donald Trump remet à son agenda sa rencontre avec Kim Jong-un, une rencontre qu'il avait annulée, on s'en souvient, la semaine dernière, fustigeant l'hostilité des Nord-Coréens. Après avoir reçu à la Maison-Blanche le numéro 2 du régime de Pyongyang, le président américain s'est dit à nouveau convaincu que le processus de dénucléarisation qui s'étalera bien au-delà du 12 juin sera couronné de succès. On reste aux États-Unis avec cette grève plutôt inédite qui menace les casinos de Las Vegas. 50 000 employés pourraient y cesser le travail et se mettre en grève illimitée dès ce samedi. Un conflit social dans la capitale du vice américain, décrypté pour nous par Grégory Phillips.
Pour l'instant, les machines à sous continuent de fonctionner. Mais les 50 000 adhérents de ces deux syndicats ont voté le principe d'une grève illimitée. Les serveurs, cuisiniers, réceptionnistes, femmes de chambre réclament une augmentation des salaires de 4%, un renforcement des mesures contre le harcèlement sexuel de la part des clients et l'assurance que l'automatisation de certaines tâches, comme l'accueil par exemple à la réception des hôtels, n'aille pas trop loin afin de ne pas compromettre les emplois. La précédente grève à Vegas remonte à 1984, un conflit social de 67 jours. À l'époque, la ville, qui était beaucoup plus petite, avait perdu environ 100 millions de dollars. Aujourd'hui, la maire de Vegas, Caroline Goodman, invitée de Fox News, espère qu'une solution va être trouvée.
Ces employés vivent ici. Je me sens proche d'eux, je comprends leurs revendications. Mais aussi, il faut que l'activité continue. Vous savez, c'est un endroit très populaire, Vegas, en ce moment.
Au total, 34 casinos sont concernés par le mouvement. Chaque journée de grève pourrait coûter environ 10 millions de dollars aux groupes MGM et Caesars, qui continuent de négocier avec les syndicats, alors que Las Vegas accueille en ce moment la finale du championnat nord-américain de hockey et la finale des World Series de poker, deux événements qui drainent des milliers de visiteurs.
Reportage de Grégory Phillips, une tentative de réconciliation nationale à présent au Venezuela. Deux semaines après sa réélection contestée, le président socialiste Nicolas Maduro a fait libérer hier 40 prisonniers politiques, pour la plupart issus des rangs de l'opposition. D'autres libérations sont prévues ces prochains jours, mais la main ferme de la justice continuera de sévir contre ceux qui conspirent et cherchent à renverser les institutions vénézuéliennes, a prévenu Nicolas Maduro. Du soleil sur la France ce samedi. Le sud-ouest cet après-midi devrait tout de même essuyer quelques orages. Les températures maximales devraient atteindre 21 degrés à Lille, 23 à Clermont et Perpignan, 24 degrés à Paris et 27 pour Nîmes et Lyon cet après-midi. Merci à M. Le Chili qui réalisait les éditions de ce samedi matin à 12h30. Vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour l'info.